Mardi politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Pierre Firsion.
La seconde partie de Mardi politique, notre invité ce soir, le député UDI François Sauvadet, ancien ministre de la fonction publique. On parlait de la politique gouvernementale dans la première partie. Penchons-nous à présent sur l'état de l'opposition. D'abord sur votre formation, l'UDI, parti orphelin depuis le départ, il y a deux mois, de son président et père fondateur Jean-Louis Borloo. Où en est l'UDI aujourd'hui, François Sauvadet ?
C'est vrai que le départ de Jean-Louis Borloo est un traumatisme pour nous. Surtout que c'était brutal. C'est une décision, d'ailleurs, bon, que les circonstances ont amené à prendre. Vous le savez tous, la maladie qui l'a frappé. Simplement, son départ a ouvert une triple crise de succession. Quand je dis le mot crise, c'est que les affaires ne sont pas réglées. D'abord, au niveau du groupe, vous savez ce qui s'est passé. Ça a laissé quand même... il y a eu le grand retour des chapelles pour la désignation du président du groupe UDI à l'Assemblée nationale.
On rappelle que vous avez été battu.
J'étais battu, mais
Philippe Vigier, le nouveau président du groupe.
C'est pas le sujet, en fait. Moi, bon, que je sois battu ou pas, c'est pas le sujet. Mais on a bien vu clairement que les chapelles se reconstituaient, notamment celle du nouveau centre, qui veut peser à l'intérieur.
Et on peut dire. Vous êtes adhérent.
Non, je suis maintenant plutôt adhérent direct de l'UDI. Je ne suis plus au nouveau centre. Je prône la fin des chapelles. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'avais proposé à Jean-Louis de créer l'UDI, et j'en étais un des cofondateurs avec lui, au moment où nous avons créé ce groupe nouveau qui a été l'embryon, le groupe UDI à l'Assemblée nationale, qui était l'embryon de la création de l'UDI parti. Et c'était ça notre objectif, c'était qu'on ne recommence pas ce qu'on avait connu avec l'UDF, avec ces chapelles qui sont mortifères, où la compétition va... Et vous allez voir ce qui s'est passé là, et c'est en train de se passer au Parti radical, puisque le Parti radical est en train de se choisir son successeur.
On le connaîtra dans les prochains jours entre
Ramayad et le maire de Nancy,
Laurent Hénard,
qui est candidat, et qui sont en train de se livrer compétition avec parfois des mots plus ou moins gentils. Et puis la troisième étape, le troisième traumatisme, ça va être celui de la désignation du président de l'UDI. Et croyez-moi que là, si c'est le président d'une chapelle qui l'emporte sur les autres chapelles, c'est le début de la fin pour l'UDI.
Alors,
voilà clairement les choses.
Avant de venir là-dessus, avant de se projeter vers le Congrès, on va en parler là-dessus. Vous entretenez encore des rapports avec Jean-Louis Borloo ? Vous l'avez au téléphone ?
Non, je ne l'ai pas eu au téléphone. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien que quand on prend des engagements, on les tient. Il est parti dans des conditions en nous laissant comme ça gérer la situation. J'aurais aimé qu'il prenne ses responsabilités beaucoup plus franchement plutôt que de laisser...
Vous lui en voulez ?
Non, je lui en veux pas.
Au lendemain de l'élection...
Non, mais j'attendais que les engagements qui avaient été pris par nous, le pacte fondateur de l'UDI, c'était la disparition des chapelles, la disparition du nouveau centre, etc., pour créer un grand parti du centre droit. Voilà notre objectif. Et aujourd'hui, c'est mortifère, cette compétition qui est en train de ressurgir entre les différents petits partis qui croient qu'ils jouent dans la cour des grands, alors que la France vit la situation qu'on vit. Si on veut créer une alternative politique, il faut vraiment un centre droit unifié, des moyens unifiés, c'est toujours pas le cas. Il faut quand même que vous sachiez qu'aujourd'hui, on est toujours en train de discuter le bout de gras entre les formations politiques pour qu'elles contribuent au pont commun. On est en train de vivre le grand retour de l'UDF dans la pire période.
Mais
c'est pas ce que je souhaite pour l'UDI.
Au lendemain de l'élection perdue à la présidence du groupe UDI, on a senti quand même que vous aviez un petit peu la dent dure contre Jean-Louis Borloo. Vous avez dit qu'il avait un petit peu manigassé.
Soit on s'en occupe pas, soit on prend pas son téléphone. Bon, l'impression qu'il a pris son téléphone. Enfin voilà, mais ça c'est le passé. Moi, c'est pas ça le sujet. C'est pas l'élection de tel ou tel. Le sujet, c'est est-ce qu'on arrête la création, le retour des chapelles de l'UDI, comme on a connu à l'UDF, ce qui nous a conduit à la mort de l'UDF, ou est-ce qu'on fait un grand parti du centre unifié ? Moi, ce rêve, c'est celui que je nourris depuis mon engagement dans la vie politique française. Un grand centre droit, qui soit en capacité de jouer à jeu égal avec nos partenaires de l'UMP, et qu'on puisse ensuite créer les conditions d'une alternative politique dans laquelle nous serions appelés à jouer le premier rôle. Je vous le dis, on vivra une découpe par appartement de l'UDI si on ne sort pas un président de l'UDI qui soit un président rassembleur et en capacité d'imposer par son autorité politique la fin des chapelles. Je crois qu'on en est loin, malheureusement.
Christophe Forcari.
Pour le moment, il y a trois candidats déclarés potentiels à la présidence de l'UDI, Hervé Morin pour le Nouveau Centre, Jean-Christophe Lagarde à la tête de son petit parti, et le maire de Neuilly, Monsieur Fromentin. Moi, j'ai envie de vous poser la question de but en blanc. Vous allez être candidat, François Sauvadet, à la tête de l'UDI, au risque de déstabiliser encore, de fragiliser, pas de déstabiliser, plus la construction de ce parti de centre-droit ?
Ce que je souhaite, moi, pour l'UDI, c'est qu'on ne refasse pas, qu'on ne se projette pas vers un retour vers le passé. Voilà. Et on sait que ce passé que nous avons connu...
Et pour cimenter l'UDI, vous pourriez être candidat à la présidence?
Si personne ne porte ce projet, je ne l'exclus pas de le porter moi-même. Ce projet de la fusion des partis. Ce projet d'une UDI unifiée. Sans quoi, je vous le dis, l'élection présidentielle se rapprochant, vous allez voir, on a déjà connu ça par le passé. On n'est pas en capacité aujourd'hui de sortir un présidentiable de notre parti. Donc il faut qu'on s'organise pour peser dans le débat politique, voilà.
Alors projetons-nous un peu en 2017... L'UDI va se doter d'un président, mais quel pourrait être son candidat à la présidentielle de 2017?
Je n'en sais rien. Est-ce qu'on aura même un candidat de l'UDI? J'en sais rien aujourd'hui. Quand on voit l'état du pays, en tout cas, moi, je ferai tout pour qu'on empêche et tout pour créer les conditions pour qu'on crée une alternative crédible dans le pays face à un président de la République qui est complètement discrédité, un gouvernement à l'ouest et des Français qui n'y croient plus, et puis l'émergence d'un Front National. L'émergence d'un Front National, c'est le fait que nous n'ayons pas une alternative crédible à proposer aux Français. Ça, c'est notre combat. Et ça imposera beaucoup de responsabilités. Ça veut dire qu'il faudra qu'on travaille avec nos partenaires de l'UMP. Tous ceux qui pensent qu'ils vont gagner seuls, au mépris d'un large rassemblement de tous ces Français déçus, ils se planteront. Et planteront le pays avec. Et favoriseront l'émergence d'un mouvement d'extrême dans lequel, quand les Français n'ont plus confiance en rien et quand les Français souffrent, eh ben, ils adressent un signal. Et ce signal, aujourd'hui, il faut le prendre très au sérieux. Donc, s'il y a un candidat qui se dégage, incarne une alternative crédible face à ce gouvernement, j'en serai de ce soutien. Mais je ne serai pas là pour promouvoir des aspects de boutique quand le pays est dans un tel état. Ça impose de la responsabilité. Et la responsabilité, c'est de faire vivre ses valeurs, ses convictions, mais de les porter au pouvoir avec des partenaires avec lesquels nous formerons une coalition. Et pour moi, c'est très clair, les partenaires républicains, avec des fondamentaux tels qu'on les connaît, c'est l'UMP.
Bernard Pellegrin.
Alors justement, c'est la question que je souhaitais vous poser, c'est est-ce, bon, la phrase est un peu brutale, mais est-ce que l'UDI, dans cette perspective, est opéable par l'UMP? Autrement dit, est-ce que finalement, comme ça s'est souvent passé à droite dans l'histoire de la France contemporaine, ce que vous cherchez, c'est une alliance avec l'UMP et avec un de ses candidats les plus au profil le plus proche de ce que vous êtes, par exemple Alain Juppé?
Non mais attendez, c'est pas ça, je dis simplement, si nous ne réunifions pas le mouvement de l'UDI, effectivement, ces chapelles sont opérables par l'UMP. Et un certain nombre de gens iront. Voilà. Deuxième chose, ce que je souhaite, moi, c'est qu'on crée les conditions, un jour, politique, j'espère prochain, d'avoir un candidat de l'UDI à la présidentielle qui puisse être de nature à rassembler toute la coalition. Si tel n'est pas le cas, effectivement, il faudra bien qu'on discute avec nos partenaires de l'UMP pour se choisir ensemble le meilleur candidat.
Et dans ce cas-là, pour vous, le meilleur candidat, c'est plutôt Juppé, quand même.
Alors, je suis foutu de vous le dire aujourd'hui. Hein. Attendez, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Ils vont se doter déjà d'un président. Ils sont en pleine discussion pour se restructurer. Je suis d'ailleurs pas de ceux qui s'en réjouissent. Moi, tout ce qui est l'affaiblissement d'une formation politique forte comme l'UMP ou comme le PS, d'ailleurs, peu importe, mais tout ce qui est l'affaiblissement d'une formation politique démocratique, c'est l'affaiblissement de la démocratie, quelque part. Voilà. Et donc, moi, je souhaite qu'il sorte très vite de cette période, que nous nous organisions, et puis qu'on crée une plateforme politique, comme d'ailleurs l'a proposé Alain Juppé, en tendant la main. Moi, je lui tends la main aussi, à Alain Juppé. Et c'est un système qui avait marché. Souvenez-vous, en 1993, on était dans un climat extraordinairement difficile. 1993, je parle. Et on s'est retrouvé avec plus de 400 parlementaires.
Oui, 1893.
1793.
Parce que je voyais le sourire de M. Forcari.
C'était
donc,
la terreur.
Et puis 1993, mon Dieu.
Je voulais lui dire que j'avais une réflexion portée dans son temps, c'est-à-dire dans notre temps. 1993, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une plateforme avec l'UMP programmatique, sur lesquels nous avons dit, voilà quel est le programme d'un gouvernement. On a déterminé les meilleurs d'entre nous des candidats uniques aux législatives, on s'est retrouvé à plus de 400. Bah, c'est une méthode qui marche. Donc tous ceux qui nous disent aujourd'hui, c'est trop tôt, on le fera plus tard, mais est-ce qu'ils se rendent compte de l'état du pays? Donc oui, je veux une UDI forte, je suis membre de l'UDI, j'ai contribué à sa création, mais je souhaite qu'on discute avec nos partenaires de l'UMP, le plus trop sera le mieux, dès qu'ils seront en ordre de marche.
Mais à vous entendre là, quand même, on sent bien que vous ne trouvez pas dans votre parti aujourd'hui de personnalité qui puisse incarner peut-être qui puisse être un candidat crédible pour cette élection présidentielle. Hervé Morin, Jean-Christophe Lagarde, tout ça, ce ne sont pas des gens qui ont la crédibilité.
Non, je pense qu'Hervé Morin n'est pas un candidat crédible pour aborder une présidentielle.
Et François Bayrou n'est pas un candidat crédible. Non, il a été deux fois candidat. Il incarne
François
quand
Bayrou,
même le centre.
Vous connaissez, moi, j'ai demandé au dernier comité exécutif de l'UDI, j'ai exigé un droit d'inventaire. Qu'est-ce que nous a apporté l'alliance avec le MoDem ?
Sur l'alternative. Hein.
Sur l'alternative, puisqu'on a créé ensemble... D'ailleurs, ça s'est fait dans des conditions un peu rapides, par une rencontre entre Jean-Louis et Borloo et François Bayrou, qui ont dit, oh ben voilà, c'est une bonne idée, on va créer l'alternative pour les européennes. Moi, je demande un droit d'inventaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça nous a apporté ou pas ? François Bayrou n'a pas clarifié aujourd'hui encore sa position politique. Il a conduit droit dans le mur, entre le ni-ni, droite-gauche. Aujourd'hui, vous avez des modems qui sont l'allié de Madame Aubry à Lille, vous avez des modems qui sont l'allié de Monsieur Collomb à Lyon, vous en avez d'autres à Pau qui sont l'allié de l'UMP,
et chez vous,
vous en avez à Dijon qui sont l'allié du Parti Socialiste Clermont. Enfin, c'est pas sérieux, on peut pas conduire des combats sans une clarification politique. Elle n'a pas eu lieu. Deuxième chose, est-ce que ça nous a apporté pour les élections européennes ? Le score du MoDem, la dernière fois, était de 8 et quelques... Voilà. Là, on est monté à 9,9. On a gagné un point et demi. Un point et demi. Mais qu'est-ce qu'on y a perdu ? Nous sommes passés, nous avions 6 députés européens. On est passé à l'UDI à 3 députés européens cette année. Et le MoDem avait 5 députés européens, il est passé à 4. L'alliance était déséquilibrée. Déséquilibrée.
Mais
le MoDem a négocié avec nous le pistolet sur la tempe. C'est pas tenable. Voilà.
Mais sur les municipales, le résultat est quand même plutôt probant, non ?
Non, mais le résultat était probant. Là, on était en chef de fila. Là, on a eu dans de nombreuses communes des modems qui se sont même proposés contre l'UDI. Ça peut pas durer. On n'est pas là, nous, à venir jouer les stratégies d'alliance, de circonstances. Je dis simplement, oui, François, et je lance un appel, clarifie encore la position locale, tranche définitivement la question... Tu dois rejoindre un mouvement de centre-droit. Sans quoi, on ne va pas refaire le film qui nous avait conduit à le quitter. Parce que quand même, grâce à lui, on s'est retrouvé quand même pendant une quinzaine d'années en abstinence de responsabilité. Et un homme politique, un mouvement politique qui ne participe pas à un gouvernement de la France au motif que dans 5 ans, 6 ans, il sera président, franchement, c'est le vouer à la mort certaine.
Mais Monsieur Sauvadet, est-ce que les Français peuvent comprendre quelque chose à tout ça ? Excusez-moi de vous poser
très bien.
Vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a le MoDem d'un côté, qui est censé être au centre, l'UDI de l'autre. Et puis à l'intérieur de l'UDI, il y a un certain nombre de gens qui, depuis le départ de Jean-Louis Borloo, se chicanent, se jalousent, sont en rivalité. Il y a même des gens qui sont directement, comme vous, adhérents de l'UDI parti, et puis des gens qui le sont par leur propre structure. Comment les Français, à l'égard de la notion de centre en politique, peuvent comprendre quelque chose à la situation de votre famille politique ?
Je me bats pour un centre clair.
Vous avez du travail.
Bah, écoutez, c'est... Bah, oui.
Donc un centre à droite.
J'y crois, sinon je ne ferai plus de politique. Sinon, il faut que je rentre chez moi.
Oui, bien sûr.
Je fais autre chose. J'y crois, un centre droit. Mais un centre clair dans ses alliances. Clair dans son projet politique. Mais là, la confusion dans laquelle on est, avec un MoDem qui n'a pas tranché sa stratégie d'alliance locale et territoriale. Comment demain on va mener des élections sénatoriales ? Comment on va mener demain des élections départementales et régionales ? Avec des alliés qui sont au gré des circonstances, avec la gauche, etc. Moi, je suis dans l'opposition. Je tends la main à l'opposition, mais je suis dans l'opposition. Et je veux créer les conditions d'une alternative. Donc je ne cesse de dire à François, chiche, continuons ensemble, continuons clairement. Moi, dans mon département, vous savez, les choses sont claires. Je suis l'allié de l'UMP. Je ne parle pas de l'aile droite de l'UMP, qui, voilà.
Mais vous avez
Vous aviez été
élu quand même président du Conseil général de Côte d'Or avec une voix du MoDem.
Oui, mais enfin, du coup, il était viré du MoDem. Vous voyez un peu le truc. C'était quand même encore lisible, ça. Il vote pour moi, il est viré du MoDem. Non, mais ça, c'est autre chose. Ce que je veux simplement, c'est un centre droit clair. Bien dans ses baskets. C'est ça que je veux.
C'est pas
impossible à réaliser.
Si on
il faut simplement
bien,
que les petits chefs faillons arrêtent de se prendre pour des chefs.
Si on comprend bien, François Sauvadet, vous n'appelez pas à une rupture aujourd'hui et à la fin de l'alliance de l'alternative.
J'ai demandé un droit d'inventaire et aujourd'hui, j'ai demandé, je pense que je vais l'obtenir, qu'on réécrive la charte. Voilà.
Et qu'est-ce que vous voulez y mettre en plus ?
Moi, je veux... parce que la charte nous engageait avec le MoDem sur les élections départementales et régionales. Je ne me sens pas engagé par cette charte sur les régionales et départementales. Je ne revivrai pas, je le dis ici, ce que nous avons vécu avec le MoDem qui nous a conduit et qui a conduit François Bayrou droit dans le mur. Faute d'une clarté dans les alliances. Voilà.
Donc là-dessus, vous demandez la séparation au moment de ces élections?
Ah ben, s'il n'y a pas de clarification, oui.
Venons-en rapidement.
C'est assez clair ce que je vous dis.
Oui, là c'est assez clair.
Très.
Venons-en rapidement, parce qu'il ne nous reste plus que 5 minutes dans cette émission.
Donc je demande à ce qu'on voit les conditions. Je ne me sens pas engagé de par l'alternative. Parce que c'est la même alternative, d'ailleurs, qui m'a conduit, faute d'avoir une clarification politique, à voter pour Arnaud Danjean aux dernières élections.
Oui,
dans le contexte.
On rappelle que vous n'avez pas voté pour votre parti aux dernières élections, vous avez voté pour l'UMP, pour le
candidat
UMP.
Enfin, je n'allais pas voter pour un candidat du Modem soutenu par l'adjoint au maire de François Rebsamen. Enfin, il y a des moments, il faut être sérieux, les électeurs n'y comprennent plus rien.
Mais vous vous sentez bien dans votre parti, là, parce qu'on a l'impression
Moi, je suis heureux. Je suis heureux parce que je rêve encore que c'est possible. Le jour où je ne rêverai plus que c'est possible, je changerai de parti. Mais ça fait 20 ans que je rêve que c'est possible, je ne me désespère pas.
Dans
l'intérêt de la vie politique française, d'ailleurs. C'est pas pour nous.
On va continuer à avancer, puisqu'il ne nous reste plus que 4 minutes maintenant dans cette émission. Un petit mot sur la crise que traverse actuellement l'UMP suite à l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy réfléchit à revenir pour éventuellement reprendre le parti. Ça serait la bonne solution, selon vous?
Bon, d'abord, c'est une tragédie politique. Alors, imaginez ce que ressentent les Français quand ils ont entendu parler de 20 millions d'euros. Enfin, franchement, c'est fou. Donc moi, ce que je demande, c'est que la justice fasse son travail, que ceux qui ont eu des responsabilités dans cette affaire s'éloignent de la vie politique durablement et qu'on revienne sur des bases qui sont des bases saines. C'est ce qu'attendent les Français. Voilà.
Donc l'éventuel retour de Nicolas Sarkozy au premier plan pour reprendre le parti, alors qu'il a toujours dit qu'il ne voulait plus s'intéresser aux affaires politico-politiciennes.
Bon, j'en sais rien, ça c'est des questions qu'il faut poser à Nicolas Sarkozy lui-même.
Mais vous le souhaiteriez son retour ?
Moi j'étais son ministre, j'ai trouvé que c'était un excellent président de la République. Il a été vraiment vilipendé, souvent traîné dans la boue. Ça a été un très bon président de la République. Et dans les temps de crise qu'on traverse, oui, il fait défaut au pays.
Christophe Forcari, très rapidement.
Juste une courte question. Face à une UMP en crise, vous ne craignez pas de passer à côté d'une chance historique à cause de vos chicaneries internes, justement?
Mais vous croyez qu'on peut se faire du gras sur la désespérance d'un certain nombre de nos compatriotes? La désespérance, elle s'installe partout. Et donc, on a une vraie responsabilité. Il faut que l'UMP occupe son créneau, que nous soyons clairement dans le nôtre, c'est-à-dire une politique de centre-droit. C'est celle qui avait conduit Giscard d'Estaing au pouvoir. C'est un rêve qui n'est pas inaccessible. Mais il faut que tous ceux qui se prennent au sein de l'UDI pour des petits chefs rangent leurs petits outils, leurs crayons, et puis se mettent à avoir un vrai dessein pour la France.
Allez, on va finir par un dernier sujet, le Front National, il nous reste encore 2 minutes. Le Front National, vous avez suivi ces dernières heures cette polémique suite aux propos à fort relent antisémites tenus la semaine dernière par Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen tente, elle, de se démarquer de son père. Si elle est sincère dans cette posture républicaine, déclarait ce matin votre collègue de l'UDI, Ramayad, elle doit exclure son père du Front National. Vous êtes d'accord?
Oui, mais au-delà, moi je pense que ce parti n'a pas changé. Au fond, c'est un parti xénophobe, c'est un parti qui joue sur les ressorts qu'on souhaiterait pas voir gagner ou conduire des responsables au pouvoir. Et donc moi je ne veux pas d'une France repliée, je veux d'une France qui s'ouvre au contraire et qui se reprenne confiance en elle-même. Donc vous savez, moi j'ai toujours combattu les idées du front. Je pense que pour bien le combattre, il faut redonner de confiance au peuple. Aujourd'hui, la montée du front, c'est d'abord une crise profonde du politique et une crise profonde de la vie des gens au quotidien. Ils n'en peuvent plus, ils ne s'en sortent pas, même financièrement, même ceux qui travaillent, notamment ce qu'on appelle les travailleurs pauvres.
Bernard Pellegrin.
Pour vous, il n'y a aucune différence entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, et la dédiabolisation, c'est un mot qu'on entend depuis 48 heures fréquemment, ça n'existe pas.
Ça existe dans les mots, mais sur le fond, on voit bien que le fond de la politique est la même. Sortie de l'euro, repli sur soi, politique migratoire maîtrisée, enfin le fond, les relances sont les mêmes, vous les connaissez.
Donc
c'est une affaire de mots derrière, vous savez, mais ça ne change pas le fond.
Le Front National, toujours un parti pour vous, avec des tendances antisémites, très rapidement
C'est pour moi un parti extrémiste, assurément.
Un parti extrémiste de droite. Pour vous, c'est un parti d'extrême droite, clairement assumé.
C'est un parti d'extrême droite.
Merci beaucoup, François Sauvadet, d'avoir répondu à notre invitation. À la réalisation, il y avait ce soir, comme chaque semaine, Mathias Golshani, merci à lui. Et merci également à Pauline Darvé. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Bonne semaine à tous, à l'écoute d'RFI, bien sûr.